Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Pascal Massirika.
Les titres de l'actualité en Ituri, 21 otages ont été exécutés par les rebelles ougandais de l'ADF à Mutuei. L'Organisation des défenses des droits humains à pied d'œuvre dans la région demande au FRDC d'orienter au plus vite leurs opérations sur l'axe Komanda-Luna où l'ennemi s'est réorganisé. Recrudescence de la rougeole dans les Kwilu, le bilan dressé par la Division provinciale de la santé fait état de 103 enfants de moins de 5 ans tués sur 5700 cas documentés. Sur place, la riposte fait cruellement défaut faute de moyens. Notre invitée, c'est Madame Kombe Djamba. Cette dame de 63 ans encadre depuis 23 ans des jeunes filles, femmes désœuvrées et violées dans plusieurs métiers pour leur auto-prise en charge. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, 21 personnes ont été tuées par des rebelles ougandais de l'ADF le week-end dernier à Mutuei, dans la chefferie de Walese Vonkutu. Les activistes des droits humains parlent d'otages venus d'Eringeti au nord Kivu voisin et qui ont été amenés en brousse par leurs ravisseurs. Un des acteurs de cette organisation des défenses des droits humains demande par conséquent aux responsables de l'opération Ushujia contre ces rebelles ougandais d'orienter au plus vite leurs opérations sur l'axe Komanda-Luna où l'ennemi s'est réorganisé. Christophe Mounianderou a été joint par Martial Kizabiamungu.
Ces populations ont été tuées à Mutuei, c'est vers les côtés de la province de l'Ituri. L'ennemi qui fuit les attaques du côté est, parce que c'est de là que se déroulent les opérations Ushujia UPDF-RDC. Il a traversé et c'est comme ça qu'il se charge contre les populations civiles. C'est pourquoi nous lançons un SOS et nous voulons voir ces opérations continuer et vers le côté ouest pour traquer cet ADF dans sa cachette, parce que ces opérations, si réellement ne seront pas bien planifiées, l'ennemi va continuer toujours à tuer les populations vers ses côtés où il a pris fuite. Donc, il faudrait qu'on puisse poursuivre l'ennemi jusqu'à sa dernière neutralisation. Mais aussi, nous appelons notre population civile de voir comment arrêter tout d'abord de fréquenter ces zones-là que l'ennemi a pris comme direction.
49 ex-otages, ex-combattants rebelles ougandais de l'ADF, dont 23 Congolais, qui ont achevé un programme de 3 mois de suivi psychosomatique et d'apprentissage ont été présentés aux médias hier à Kampala par le porte-parole de l'armée ougandaise. Ces personnes sont prises en charge par l'organisation internationale Broadway Foundation qui étend ses activités en Ouganda, au Nord Kivu et en Ituri. Le reportage de Sifa Maguru est rendu ici par Bernard Nanyangi.
Dans ce mot, le porte-parole de l'armée ougandaise a reconnu que la population congolaise a été la plus meurtrie par des atrocités des ADF avec le massacre des milliers de personnes. Cet officier militaire n'a pas manqué de condamner le kidnapping et l'enrôlement forcé des enfants par les ADF, dont la plupart sont des mineurs, afin de les utiliser dans leurs projets macabres. Ces enfants, filles et garçons, pour la plupart mineurs, ont fait des témoignages poignants qui sont souvent interrompus par des sanglots et ont retracé la souffrance qui leur a été infligée pendant la période de leur captivité par les ADF. Notez que ces ex-combattants et otages des ADF sont prêts à être réinsérés dans la communauté, d'abord les Ougandais et ensuite les Congolais qui doivent rejoindre leur milieu respectif. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
La tension est montée d'un cran hier à Beni, au Nord Kivu, devant la base logistique de FRDC. De veuves des militaires et leurs enfants manifestaient pour protester, selon eux, contre l'omission de leur nom sur la liste qui a été dressée après le contrôle physique effectué par la délégation de l'inspection générale des FRDC venue de Kinshasa. À Beni, la correspondance de Marc Marofimbo.
Ces femmes qui prétendent être veuves des militaires affirment être identifiées par les services administratifs militaires depuis la mort de leur mari. Elles se disent surprises de ne pas voir leur nom sur la liste des bénéficiaires après le dernier contrôle de l'inspection générale des FRDC. Mais une manifestante qui a requis l'anonymat reconnaît cependant que parmi elles figurent des femmes avec des faux documents obtenus auprès de certains officiers militaires. Il y a certainement des magouilles dans l'enregistrement des veuves militaires. La justice militaire est en train d'examiner la situation au cas par cas, indique le capitaine Anthony Malouchai.
Nous avons constaté ensemble avec la délégation qu'il y a des magouilles parce que le contrôle est tellement rigoureux. Il y a de fausses veuves qui détiennent 3, 4, 5 cartes de lecteurs. Mais il faut les dire qu'il y a de vraies veuves aussi qui sont déjà dans d'autres provinces, parfois qui ne reçoivent plus rien. Or, que ces fausses veuves et ces faux orphelins sont ici en train de bénéficier les salaires des soldats. Il y a certains de nos officiers qui sont toujours dans le magouille et qui vivent de ça. Et les dire, ce n'est pas un péché. Le mal, nous devons le combattre. Laissez les antivaleurs à côté.
Signalons qu'une quarantaine de femmes qui se faisaient passer pour des veuves des militaires ont été arrêtées par des faux documents sur un total de 127 dont les dossiers sont passés au peigne fin par des inspecteurs venus de Kinshasa. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Santé à présent, recrudescence de la rougeole dans les Kwilu depuis le début de l'année. Le bilan actuel fait état de 103 enfants de moins de 5 ans tués sur 5700 cas documentés. Le chef des divisions provinciales de la santé indique qu'aucune zone de santé n'a organisé jusque-là la riposte, faute de moyens. Il appelle par conséquent les parents à respecter le calendrier vaccinal de leurs enfants. À Bandundouville, Irène Mboma.
Dans un entretien mardi 22 août dans son cabinet de travail à Bandundouville, Dr Emerance Nyoka qui assume l'intérim du chef de division provinciale de la santé du Kwilu a indiqué que parmi les 24 zones de santé qui composent cette division provinciale, au total 16 sont actuellement touchées par la rougeole. Elle cite notamment les zones de santé de Bandundu, de Bagata, de Bulungu, Lusanga, Kikwit Nord, Kikwit Sud, Masimanimba, Mwanza, Mungindu, Kingandu, Gungu, Koshibanda, Paikongila et Yasabonga. Docteur Emerance Nyoka.
Depuis le début de l'année jusqu'à ces jours, les zones de santé ont notifié 5768 cas de rougeole et il y a eu 103 décès. Et on a envoyé les échantillons au niveau national INRB. 118 échantillons sont rentrés positifs. La riposte n'est pas encore organisée puisqu'on n'a pas assez de moyens, mais dans les perspectives, il y aura la riposte contre la rougeole à travers toute l'étendue de la province.
La prise en charge de cette maladie étant gratuite, Dr Nyoka invite les parents à toujours amener leurs enfants dans les établissements de soins les plus proches dès l'apparition des symptômes et elle encourage également la vaccination des routines des enfants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le gouvernement congolais devrait veiller à ce que les candidats de l'opposition à la présidentielle de décembre prochain et tous les Congolais en général s'expriment librement et organisent leurs manifestations sans restriction. C'est l'une des recommandations faites par Women Watch Vote au gouvernement de la RDC. Dans un communiqué publié ce mercredi à Kinshasa, un des dirigeants de cette organisation internationale dénonce la répression de l'opposition à l'approche des élections. Thomas Fessy s'est confié à Jeff Ngoy.
On observe depuis le mois de mai une vague d'arrestations et de restrictions frappant l'opposition. Restrictions des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et de circulation. Autrement dit, des libertés fondamentales. C'est une tendance que les autorités devraient rapidement inverser car elle risque d'aggraver une situation déjà extrêmement tendue. Des manifestations ont été soit violemment réprimées, soit interdites. Or, tous les partis politiques devraient pouvoir fonctionner pleinement et organiser leur rassemblement sans faire face à de tels obstacles, surtout à la veille de la campagne électorale officielle. Moïse Katumbi n'a pas pu réaliser sa tournée dans la province du Congo central, par exemple. Son conseiller principal, Salomon Kalonda, est aux arrêts depuis fin mai, finalement inculpé pour trahison. Frank Diongo a lui aussi été arrêté, détenu plusieurs semaines, puis relâché. Et un mois après le meurtre de Chérubin Okende, les circonstances restent à élucider. Un contexte donc tendu auquel font face les journalistes aussi qui couvrent ce processus électoral.
Et puis, invitation de Constant Mutamba, président de la Dynamique progressiste, membre de l'opposition républicaine et candidat déclaré à l'élection présidentielle de décembre prochain à RDC par le magistrat du parquet. Ses avocats ont obtenu un report pour le 1er septembre prochain, lui-même étant absent de Kinshasa. Sans dire le motif pour lequel il est convoqué, Maître Mawete Malunginika, l'un de ses avocats, estime que cette invitation serait liée plutôt aux deux derniers meetings tenus par son client au cours desquels il a prêché la rupture avec les antivaleurs en RDC. Il le dit à Paul Matendo.
L'ordre du jour de notre rencontre, c'est que le client, il est président d'un grand regroupement politique, la DIPO, qui est l'opposition républicaine dont il est pratiquement le chef de file. Alors à ce titre, il est en plein déploiement des candidatures dans des provinces, tout ça. Alors, cette situation ne lui a pas permis d'être là aujourd'hui. Puis étant un homme d'État, il a estimé qu'il ne pouvait pas manquer à ses rendez-vous. Comme ça, il a constitué un collectif que nous sommes, demandant d'aller voir le magistrat instructeur et solliciter un report. C'est ce que nous avons pu obtenir. C'est un report pour le 1er septembre. Mais cela ne nous empêche pas de jeter un regard sur l'actualité politique récente, où on a vu notre client faire deux cartons pleins. Il a tenu son meeting au début du mois d'août. Angie s'intéresse. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ça a même créé la polémique. Alors vous imaginez que dans un environnement politique comme le nôtre, ça va plaire à tout le monde. Et surtout qu'il a opté pour faire l'opposition républicaine. C'est une façon civilisée. Ça ne peut pas plaire à tout le monde.
En mission ici à Kinshasa, une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous deux membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants, ont échangé hier avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Déjà, un groupe de républicains et de démocrates du Congrès américain travaille sur un projet législatif pour renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. On écoute tour à tour John James et la démocrate Sarah Jacobs, respectivement président du sous-comité sur l'Afrique au sein de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre de représentants du Congrès américain. Un extrait proposé par Billy Valdoutumba.
Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. La République démocratique du Congo et les États-Unis ont une ancienne histoire, ont une histoire ensemble et de bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant qu'États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse.
Et puis le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental interdit aux lauréats de l'examen d'État édition 2023 de se réjouir après 18 heures pour se mettre à l'abri du phénomène kidnapping enregistré ces jours-ci dans la ville. Julie Kalenga demande aux parents de veiller sur leurs enfants et aux services de sécurité de prévenir d'éventuels débordements. Cette décision de l'autorité provinciale est saluée par les parents des nouveaux diplômés. En Boujimaï, le récit d'Esther Ndalafina.
Depuis la publication lundi soir des résultats de l'examen d'État, les lauréats de l'édition 2023 inondent les rues de Mbujimaï pour les réjouissances. Avec des poules et des canards en main, ces jeunes sillonnent les avenues pour manifester la joie d'avoir réussi à l'examen d'État. Témoignage.
J'ai réussi avec 53%, j'étudie à Moulin-Mimoui. J'ai la joie parce que je suis devenue maintenant campissa.
J'ai fait 62%, je suis très heureuse parce que l'année passée j'ai raté, voilà cette année j'ai réussi.
Ressortissante du collège Le Palmier, j'ai fait 57%. Je suis vraiment contente parce que tous nous sommes passés.
Déjà, quelques débordements sont constatés dans ces réjouissances. Pour prévenir le pire, le gouverneur de province intérimaire interdit les réjouissances après 18 heures. Julie Kalenga demande aux parents de veiller sur les enfants et aux services de sécurité de sécuriser les lauréats contre le phénomène kidnapping qui n'a pas encore dit son dernier mot. Cette décision est saluée par les parents d'élèves.
Ils se réjouissent, mais avec une certaine limite pour ne pas provoquer l'occasion à ceux qui sont venus dans notre province pour déranger les enfants. La décision du gouverneur est très bonne et très meilleure, nous les soutenons.
Je me réjouis de notre gouverneur, ce qu'il a dit, c'est très bon. Il faut que les gens se réjouissent, mais un peu.
Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a entamé ce mercredi une tournée en Afrique de l'Ouest. Il se rendra successivement au Niger, au Nigeria, mais aussi au Ghana. Il fera également une escale au Ghana. Trois pays membres de la CEDEAO, objectif de la mission, engager des concertations avec les dirigeants sur la crise au Niger et les moyens de la prendre en charge à travers la contribution à une solution politique qui évitera à coup sûr à ce pays et à la région de la CEDEAO tout entière de retomber d'une éventuelle escalade de la situation. Je rappelle que Alger s'est déjà opposé à toute intervention militaire au Niger. Le président français Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi après-midi que lors du prochain conseil de ministres qu'il réunira la semaine prochaine, les forces représentées aux deux chambres devraient débloquer une situation parlementaire complexe. Des sources gouvernementales à Paris affirment que cette initiative pourra déboucher sur des projets de loi, mais aussi sur des référendums, sans fournir d'autres précisions.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Kombe Jamba. Cette dame de 63 ans encadre depuis 23 ans des jeunes filles, femmes, désœuvrées et violées dans plusieurs métiers pour leur auto-prise en charge. Elle s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Madame Kombe Jamba Atumishim, bonjour.
Bonjour, maman journaliste.
Madame, ça fait combien d'années que vous encadrez les femmes et filles dans votre métier?
Oui, ça fait 23 ans que j'encadre les filles et les femmes dans mon métier.
Comment est-ce que c'était arrivé pour avoir cette idée d'encadrer les femmes et vous les encadrez en quoi?
Oui, moi-même, je suis une femme qui, à mon bas âge, j'ai été délaissée parce que mon père nous a laissés seuls avec notre maman. Et ma maman a peiné beaucoup pour nous scolariser. C'est à partir de cela que j'avais la compassion dans mon cœur de songer à la femme et à la jeune fille.
Aujourd'hui, vous êtes au centre Maman Line, en train d'encadrer aussi les femmes, mais aussi les jeunes filles. Comment c'était arrivé que vous soyez ici?
Oui, j'œuvre à l'église méthodiste. Et j'ai fait une formation pastorale à laquelle m'a permis d'être aumônière des femmes méthodistes unies. Quand je suis souvent en contact avec les femmes m'amènent leurs doléances, comment elles sont abandonnées et comment elles sont minimisées. À travers cela, on m'a appelé pour travailler au centre Mamaline.
Et depuis que vous encadrez ces femmes, comment évaluez-vous votre travail?
Oui, mon travail va dès l'avant parce que nous voyons quand nous descendons sur le terrain, les femmes sont en train de pratiquer ce que nous les avions appris.
Si je vous ai demandé, vous les encadrez sur quoi?
La première chose que nous faisons ici, c'est enseigner à la femme de lire et écrire. Parce qu'il y a un taux très élevé d'analphabétisation au Maniema. Et comme ça, les mamans commencent à lire et à écrire. Sans savoir lire et écrire, ils ne peuvent pas étudier encore d'autres cours que nous ajoutons dans leur formation. Oui, les femmes au centre Mamaline sont encadrées dans la cuisine et la pâtisserie. Donc, c'est un travail pratique qui peut leur aider quand ils seront réinsérés dans la société. Et encore, les femmes au centre Mamaline font la couture pour coudre les habits et se lancer dans les marchés. À part la couture et la pâtisserie, il y a aussi l'économie domestique. Savoir vivre dans la société, au foyer et partout ailleurs. Parce que ces femmes-là qui ont été violées, leur esprit ont été tourmentés. Il fallait les enseigner comment vivre dans la société. Il y a aussi les cours de la religion pour leur montrer le travail qu'ont fait les grandes femmes comme elles de la Bible.
Madame, est-ce que vous avez des moyens pour les encadrer?
Oui, maman journaliste, pour vous dire en réalité, personnellement, nous n'avons pas assez de moyens pour encadrer les femmes et surtout au Maniema, là où la femme est minimisée. Parce que nous avions trouvé les us et coutumes du Maniema que la femme ne devrait pas même être debout devant les hommes et dire quelque chose. Mais à travers les initiatives de notre Monseigneur Gabriel Hunda Yemba, représentant légal de la 81e communauté méthodiste au Congo-Est, qui ne cesse jamais d'attendre les mains vers les hommes de Dieu, nous sommes en train de fonctionner dans ce centre.
Et quel constat que vous faites après que vous relâchez les femmes qui vous encadrent ici?
Voilà, Nous n'avons pas un constat amer parce que les femmes que nous avons encadrées sont réinsérées dans la société, se prennent en charge et sont maintenant respectées.
Cette formation, madame, elle est gratuite ou on paye quelque chose pour y participer?
La formation est gratuite parce que l'homme de Dieu tend des mains par-ci par-là et nous amène de quoi nous devons travailler.
Un petit message pour terminer, madame.
Je donne un petit message à tout homme de bonne volonté d'aider le centre Mamaline pour l'avancement de l'œuvre de la jeune fille et de la maman Oumayema, un millier musulman qui a rejeté la femme et la jeune fille. Mais avec les gens, aujourd'hui, nous prenons sur l'égalité des sexes. La femme aussi doit être élevée et vue par tout le monde, car c'est un être créé à l'image de Dieu.
Madame Kombe Diamba, merci.
C'est moi qui vous remercie, maman journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, Madame Kombe Diamba, était interviewée à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale d'Alain Rungu Mushinji.